Bonjour Laurent Jacobelli.
Bonjour Frédéric Rivière.
Les premières mesures annoncées mardi par Emmanuel Macron pour lutter contre ce qu'il appelle le séparatisme islamiste vont-elles selon vous dans le bon sens ?
Écoutez, ça fait 3 ans qu'Emmanuel Macron dénie la réalité, renie la réalité, se tait, tourne la tête par rapport aux questions du communautarisme. Et on aurait pu se dire qu'en 3 ans, il avait travaillé, il avait épluché le dossier, qu'il allait nous préparer des mesures fortes, capables d'enrayer le phénomène. Il n'en est rien.
C'est une première étape, dit l'Élysée. Écoutez, il y aura d'autres annonces dans les prochaines semaines.
Oui, 3 ans pour prendre conscience d'un problème dont tous les Français se rendent compte chaque jour dans leur vie quotidienne. C'est un peu long pour arriver à quoi ? Eh ben, pas grand-chose. Une fois encore, des mesures floues, des paroles. Pas d'échéance concrète. Vous savez, le président de la République ferait mieux de faire respecter la loi, faire fermer les mosquées salafistes. Il y en a 150 en France, il n'en a fermé que 7. De renvoyer chez eux tous ceux qui, dans ces mosquées, prêchent la haine, disent que la femme infidèle doit être lapidée, que les homosexuels méritent la mort. Oui, ces propos se tiennent aujourd'hui en France. Le président de la République ne fait rien. Les services intérieurs ont recensé 150 zones de don droit, 150 mini-califats, où c'est l'argent de la drogue qui fait les et où c'est une forme de succédané de la charia qui tient lieu de loi. La situation est grave. On a eu un président de la République, une fois encore, qui n'est pas à la hauteur. Vous savez, il y a une image terrible. Parfois, les faits parlent beaucoup plus que les paroles. Il y a cette femme entièrement voilée qui se tient à côté du président de la République pendant qu'il donne une interview. À 2 centimètres de lui, il y avait le communautarisme.
Oui, c'est une très jeune femme dont on se demande en effet comment elle s'est glissée aux côtés du président de la République.
Mais la loi n'est pas respectée.
Mais c'est qui enlève en aujourd'hui. Effet son voile pour faire un selfie. Cette image a été très largement commentée.
Oui, elle est symbolique.
Toute la journée d'hier.
Elle est symbolique de quelqu'un qui enfreint la loi puisque vous savez qu'il est interdit de se couvrir entièrement le visage. Eh bien, le président de la République ne fait rien pour que la loi soit respectée. Elle vient le narguer, elle vient l'humilier. Et il se laisse faire. Alors, un président soumis au communautarisme.
Vous dites pas de mesure et du flou. Il y a quand même un certain nombre de choses qui sont concrètes. Plus d'imams venus de l'étranger, par exemple, a dit Emmanuel Macron. Ça, c'est une mesure que vous demandiez depuis longtemps. Et ça, c'est concret.
Mais si c'était vrai, j'applaudirais dès demain. Vous le savez très bien, Frédéric Rivière.
Vous jugerez sur pièce, mais pour l'instant, c'est annoncé.
Oui, mais Monsieur Castaner s'est précipité pour dire que cette mesure n'interviendrait pas avant 2024, que ça prendrait du temps. 2024, je ne vous cache rien. Le président de la République actuel ne sera probablement plus, en tout cas, je l'espère, aux manettes, puisque les élections sont en 2022. Vous voyez, une fois encore, il retarde l'échéance. Je vais vous dire, s'il avait voulu régler une grande partie du problème, il aurait annoncé un contrôle strict de l'immigration. Emmanuel Macron, c'est le président des records de l'immigration. 400 000 migrants légaux par an. Je ne compte pas les migrants illégaux. Ça veut dire la ville de Paris tous les 5 ans. Or, aujourd'hui, on importe le communautarisme, on importe l'islam radical à travers l'immigration. Tant qu'on n'enrayera pas cette submersion migratoire, on ne réglera pas le problème.
Il y a une autre mesure concrète qui a été annoncée, qui a été largement commentée, c'est la suppression à la rentrée prochaine de ce que l'on appelle les ELCO, les enseignements en langue et culture d'origine, qui offrent à 80 000 élèves par an des cours dispensés par des enseignants qui viennent d'autres pays, qui viennent de l'étranger, qui sont parfois non francophones, le président de la République l'a souligné d'ailleurs, et sans contrôle de l'éducation nationale. Donc Emmanuel Macron a donc dit ça c'est terminé en 2020, ça a priori c'est une mesure que vous devriez approuver, non ?
Mais non. Parce que ce à quoi il veut mettre fin, c'est le fait que les professeurs ne soient pas contrôlés par l'éducation nationale. Mais il ne veut pas une seconde remettre en cause le fait qu'il y ait des cours de langue étrangère à des jeunes enfants issus notamment de l'immigration. Mais un président de la République intelligent qui a
est-ce que c'est une mauvaise chose en soi ? Parce que ça ne concerne pas que les cours d'arabe. Il y a des cours d'italien, par exemple.
Oui,
il y a 9 pays qui sont concernés.
Je sais. Mais vous imaginez bien que les cours de croate sont probablement pas les plus dispensés. Un président de la République qui a à cœur la République, le sens de l'assimilation républicaine, aurait proposé que aux enfants issus de l'immigration, on donne des cours de français supplémentaires pour les intégrer plus vite si jamais ils ont des problèmes pour apprendre notre langue. Non, il laisse faire tout l'inverse. Mais d'ailleurs, il n'y a qu'à écouter sa majorité, Aurélien Taché, qui court les plateaux de télévision et de radio pour dire qu'il faut enseigner maintenant l'arabe à l'école, parce que c'est une langue qui concerne un certain nombre de Français. Monsieur Jack Lang, alors lui qui ne fait pas partie de la majorité, mais vous voyez, il y a comme ça toute une nébuleuse qui veut toujours plus de langues étrangères à l'école, toujours plus de communautarisme, et malheureusement, c'est eux qui sont écoutés.
Selon vous, Piotr Pawlenski, qui a diffusé les fameuses vidéos de Benjamin Griveaux, doit-il être renvoyé en Russie, comme l'ont demandé très vite certains députés de La République En Marche, et comme l'a évoqué d'ailleurs hier le ministre de l'Intérieur ?
Toute personne accueillie en France par notamment l'exil politique, et qui enfreint les lois de la République française, doit être renvoyer chez elles. C'est vrai pour Monsieur Pavlovski, c'est vrai pour aussi ces migrants.
Aujourd'hui, ça n'est pas la loi, donc il faut changer la loi.
Il faut changer la loi, mais nous le préconisons. Mais c'est vrai aussi pour ces migrants qui violent des femmes âgées, pour ceux qui blessent et harcèlent des enfants français. Vous savez, j'ai l'impression que quand on attaque un membre de La République En Marche, alors là, Monsieur Castaner et tout le gouvernement veulent des mesures fermes, des mesures d'autorité. Mais c'est pas plus grave d'attaquer Monsieur Benjamin Griveaux que d'attaquer un Français lambda. Est-ce que vous croyez que chaque Français doit avoir sur lui une carte de La République En Marche pour être protégé contre ces migrants qui viennent les agresser parfois ? Non. Il faut que la loi s'applique à tous. Heureux que les membres du gouvernement en aient pris conscience, en tout cas.
À propos de Christophe Castaner, toujours, puisque j'en parlais. Olivier Faure a demandé hier au président de la République de convoquer le ministre de l'Intérieur après les propos qu'il a tenus sur les divorces et les séparations du premier secrétaire du Parti Socialiste. Est-ce que vous pensez, vous aussi, que Christophe Castaner a franchi, comme l'a dit Olivier Faure, une ligne rouge ?
Oui, tous les jours, Monsieur Castaner franchit une ligne. Hein. Monsieur Castaner est incompétent. Monsieur Castaner a laissé le chaos s'installer dans les rues françaises. Monsieur Castaner a monté les citoyens français contre leur police et aujourd'hui, M. Castaner déballe des éléments de vie privée des opposants politiques d'ailleurs qu'il semble fortement mépriser quand il ne demande pas d'ailleurs qu'on les frappe à coups de matraque. Non, M. Castaner est, je crois, une anomalie de la République, une anomalie de la politique. Il est fait pour être ministre comme moi, pour être trompettiste.
Précisons, pour être complet, que Christophe Castaner, dans l'après-midi hier, a regretté ses propos, dit qu'il ne visait évidemment pas à intimider Olivier Faure.
Eh bien, nous regrettons que Monsieur Castaner soit ministre.
Nous sommes à guère plus de 3 semaines des élections municipales. Laurent Jacobelli, qu'est-ce qui serait pour vous un bon résultat lors de ce scrutin ?
Oh, il y a deux indicateurs importants. Le premier, je pense, c'est que, bien sûr, nous conservions les 12 villes que nous gérons actuellement et dont, je crois, les habitants sont plutôt très satisfaits et que nos maires soient réélus, qu'on conquiert, bien sûr, un certain nombre d'autres mairies. J'ai pas de chiffres en tête parce que, vous savez, ce sont des élections particulières, les élections municipales. Si on a un duel, une triangulaire ou une quadrangulaire, c'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas faire de pronostics. Mais ce sera l'occasion de
faire... On sera loin des 137 villes qui avaient été évoquées à un moment.
Par La République En Marche ?
Oui.
Oui, c'est-à-dire qu'ils pensaient même que Cannes, nous n'avons pas de candidat, serait remporté par nous contre, vous voyez, ils sont tellement mauvais qu'ils pensent qu'on peut les battre même sans candidat. Bah, c'est un signe.
Oui. Marine Le Pen a annoncé il y a quelques jours que le Rassemblement National allait lancer un emprunt auprès des Français. Est-ce que ça signifie que vous ne pouvez toujours pas vous financer auprès des banques ?
Eh oui. Nous sommes dans une démocratie aujourd'hui où le premier parti d'opposition, je pense même le premier parti de France, quand on regarde les derniers résultats aux élections européennes, ne peut pas se financer normalement auprès des banques. C'est une forme de, comment dirais-je, d'ostracisme, de déni de démocratie qui nous est fait. Alors évidemment, nous faisons un appel direct aux citoyens français et à chaque fois ça marche parce qu'à chaque fois les Français se disent, eh bien, on a besoin d'une voix d'opposition, on a besoin d'un programme de bon sens face à Emmanuel Macron et croyez bien que prêtent, bien sûr, des proches du Rassemblement National, mais aussi tout simplement des Français amoureux de la démocratie. Mais ça pose vraiment une vraie question. Il y a une deuxième question d'ailleurs. Vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a des élections, un mois et demi avant, on nous sort un pseudo scandale financier sur le Rassemblement National, qui, d'ailleurs, quelques mois après les élections, fait à chaque fois pchit. C'est la finance qui est devenue un instrument politique, mais dans les mains de M. Macron, ça ne surprendra personne.
À quoi servirait l'argent que vous obtiendriez avec cet emprunt auprès des Français à financer en particulier la prochaine présidentielle ?
Mais pourquoi pas financer aussi des actions militantes ? Vous savez, un parti politique, pour diffuser son programme, pour condamner la triste politique d'Emmanuel Macron, a besoin de moyens. C'est évident, nous, on veut être une force d'opposition constructive. Et pour ça, il faut deux choses. Il faut l'intelligence du programme, ça nous l'avons, et puis aussi, bien sûr, des moyens. Le président avait parlé d'une banque de la démocratie. Oui. C'était une de ses promesses de campagne pour établir une forme d'égalité.
C'est François Bayrou qui en avait parlé. Cet argent ne servirait pas à rembourser les 9 millions d'euros que le Rassemblement National doit à un créancier russe ?
J'imagine que ça y contribuera. Nous remboursons toujours nos dettes, contrairement à ce qui est dit, et nous rembourserons là aussi cette dette. Nous sommes un parti qui respecte, vous savez, toutes les lois de la République, y compris financières. Et d'ailleurs, nos comptes sont chaque fois vérifiés par la Commission. Donc, une fois encore, c'est un moyen de pression contre nous.
Merci Laurent Jacobelli. Bonne journée.
Merci, bonne journée.